Dans nos communautés, une émission de Christiane Hervault sur Radio Alliance Plus.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices de Radio Alliance Plus, bienvenue pour notre émission. Aujourd'hui, nous parlons de nouveau de l'Association protestante d'assistance. Je dis de nouveau parce que nous l'avons déjà présentée à Radio Alliance Plus de différentes façons, soit sur l'émission « Parole aux associations » de Didier Lourdoux, soit dans mon émission « Dans nos communautés ». Je vous rappelle les actions de l'APA, des actions de première urgence, alimentation et nutrition, hygiène, entretien de la maison, soins et santé, vêtements gratuits ou à petit prix. Et puis, de l'aide aux devoirs pour les enfants, l'apprentissage du français pour les personnes étrangères, un appui numérique et informatique, les jeudis culture et les visites aux personnes âgées isolées. Voilà pour l'essentiel de l'Association protestante d'assistance. Nous parlons aujourd'hui de nouveau de l'APA, parce qu'il y a eu le colloque vendredi dernier 5 décembre, colloque de l'APA 2025, comme chaque année. Et cette année, ce colloque présentait le thème « Une société inclusive ». Alors, est-ce que l'inclusion peut être un projet de vivre ensemble ou est-ce une illusion normative d'une société sans privilèges, exclusivité ni exclusion ? Quelle est notre capacité à inclure ? Existe-t-il des décalages entre nos intentions et le réel? Et comment faire route ensemble? Se sentir accueilli, respecté, être traité équitablement, avoir accès aux mêmes possibilités? Alors non seulement avoir une place, mais une voix autour de la table. La société inclusive est-elle une promesse intenable? Voilà le vaste sujet dont nous avons pu entendre des interventions vendredi dernier, et aussi voir un film intitulé « Moi, Daniel Blake » réalisé par Ken Loach. Les interventions ont été faites par deux personnes, Élodie Charbonnier, qui est vice-présidente chargée de mission égalité, diversité, inclusion à l'Université de Nîmes, et Mourad Berada, directeur pôle insertion, logement et tiers-lieux alimentaires, Croix-Rouge, pôle de lutte contre les exclusions. Je vous propose d'écouter Élodie Charbonnier, qui est donc chargée de mission égalité, diversité, inclusion à l'Université de Nîmes et qui nous parle des différents aspects de ce sujet avec les étudiants, notamment les personnes étrangères ou les personnes en grande difficulté. Je vous invite à l'écouter maintenant et puis nous nous retrouvons juste après pour la fin de cette émission.
Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, même si j'accueille plutôt un public qui est un public très spécifique, à savoir les étudiants et les étudiantes de l'Université de Nîmes. Mais du coup, je trouvais ça intéressant de pouvoir vous partager un petit peu deux choses. Donc la première, effectivement, Philippe l'a évoqué, du coup, au sein des universités, et donc l'Université de Nîmes s'est un petit peu alignée avec ce qui est fait classiquement dans le monde universitaire. Vous avez une personne en charge des questions d'égalité, diversité, inclusion, donc ce qu'on appelle les missions EDI dans les universités. Et donc peut-être je trouverais ça intéressant de vous partager, nous, ce qu'on va entendre comme étant des questions, qu'est-ce qui tient à la question de l'égalité, qu'est-ce qui tient à la question de la diversité et qu'est-ce qui tient à la question de l'inclusion. Parce que c'est vrai que c'est deux termes qui à la fois s'alimentent les uns les autres, enfin trois termes, pardon, qui s'alimentent les uns les autres, mais qui en même temps renvoient des réalités à des actions un petit peu différentes. Et puis, je trouvais ça aussi intéressant de pouvoir vous partager ce qui est engagé au sein de l'Université de Nîmes. Et avec peut-être, alors c'est peut-être sur cet aspect-là que ça serait intéressant d'échanger ensemble, cette idée de d'écart des fois, comme j'imagine tout le monde le vit dans son quotidien et dans ses actions associatives, entre ce que l'on souhaite faire, ce que l'on arrive à faire et l'efficacité de ce que l'on fait. Donc peut-être sur cette distinction entre égalité, diversité, inclusion. Donc nous, au sein de l'université, la question de l'égalité, on l'oriente très, enfin, elle est très orientée sur l'égalité homme-femme. Notamment, ça, c'est un questionnement de l'Université de Nîmes, mais finalement de la plupart des universités, d'arriver à avoir une certaine mixité en termes de genre au sein des filières. Parce que bah, je pense que vous en avez peut-être tous conscience de par vos connaissances personnelles ou familiales. Il y a quand même des disciplines qui sont plutôt orientées sur le plan féminin et puis des disciplines plutôt orientées sur le plan masculin. Alors pour alimenter un peu les stéréotypes, par exemple en filière maths, vous devez avoir peut-être 2-3 filles sur 80 garçons. Et puis pour prendre un autre exemple qui est peut-être celui que moi je connais le plus, pour reprendre la filière psycho, vous avez sur un amphi de 450, 430 filles pour potentiellement 20 garçons. Et ça, c'est vrai que ça nous questionne systématiquement parce qu'il y a quand même le souhait qu'on n'a pas besoin d'être une fille pour être meilleure en psycho, tout comme on n'a pas besoin d'être un garçon pour être meilleur en maths. Et pour autant, bah, ces stéréotypes de genre liés à l'orientation professionnelle et donc à moyen terme, finalement, à l'inscription dans un parcours universitaire, c'est quelque chose qui est très dur à déconstruire. Et donc, c'est pour ça que nous avons un certain nombre d'enseignants-chercheurs qui interviennent dans les collèges, dans les lycées, pour essayer un petit peu de déconstruire cette idée que bah, les filières dites scientifiques, maths, physique, finalement ne sont accessibles qu'aux garçons, et que les filières dites plutôt sciences humaines ne seraient potentiellement accessibles qu'auprès des filles. Mais vous voyez, ça, finalement, nous, ça nous mobilise quand même un certain temps, parce que bah, ça suppose d'aller dans les collèges, d'intervenir auprès de chaque classe. Et puis, il y a une certaine frustration aussi parce qu'on n'a pas l'impression que, finalement, on arrive de manière efficace à déconstruire ces stéréotypes. En tout cas, ce n'est pas ce que les inscriptions nous montrent chaque année, malheureusement. Donc ça, ça reste un enjeu pour nous d'arriver à promouvoir une égalité homme-femme. Et ça me fait un peu la transition avec cette question de la diversité. Nous, au sein de l'université, l'enjeu de cette notion de diversité, c'est d'essayer d'avoir une diversité dans la communauté étudiante. Et donc, on sait que, par exemple, les jeunes les plus précaires seront ceux qui vont rentrer sur le marché du travail le plus rapidement, le plus précocement, et donc qui, des fois, par des représentations sur lesquelles l'université, ce n'est pas pour eux, ne rentrent pas, ne passent pas à la porte de l'université. Et donc, pour nous, c'est important d'avoir une diversité dans la communauté étudiante, diversité de profils, donc sur la question du genre, comme je l'évoquais précédemment, mais aussi sur les conditions socio-économiques du jeune, de sa famille, puisque souvent, on est quand même dans une configuration où c'est la famille qui va financer, du coup, les études, potentiellement le logement, et puis tous les frais annexes à son parcours universitaire. Et ça, c'est vrai que c'est un véritable enjeu pour nous. Notamment, l'Université de Nîmes est une des universités en France qui a le taux de boursiers le plus élevé. Et donc, finalement, des fois, c'est quelque chose qui peut mettre en difficulté. Mais en réalité, pour nous, c'est une certaine fierté. Parce que du coup, c'est aussi rendre accessible l'enseignement supérieur, bah, finalement, aux personnes qui sont potentiellement les plus précaires et qui pourraient se représenter comme étant trop éloignées du monde universitaire. Et donc, cette diversité, ça implique, si on souhaite arriver à accueillir des populations les plus diversifiées possibles, ben finalement d'avoir un système qui est en capacité de les accueillir. Et donc là, on arrive à la troisième mission qui va être cette question de l'inclusion. C'est-à-dire qu'une fois qu'on arrive à faire venir ces populations diversifiées au sein de l'université, ben l'enjeu, ça va être aussi d'arriver à les faire réussir, d'arriver à les accompagner au maximum. Et là, on rentre de nouveau dans une situation un peu conflictuelle où quand on voit une diversité dans notre population étudiante, du coup c'est satisfaisant, c'est-à-dire on se dit ça, cette mission-là on arrive à l'atteindre, mais sauf que du coup quand ils viennent, elles viennent avec des particularités, des demandes, et bien là on se retrouve un petit peu à l'image, alors peut-être moins caricaturale j'espère en tout cas, de ce qui est observé dans le film, mais des fois des positions de conflit entre on veut mais on ne peut pas. Vous nous demandez, mais en fait, on ne sait pas comment y répondre. Et du coup, il y a cet aspect de paradoxe. Et je trouve que c'est assez intéressant. Pour moi, c'est une vraie réflexion, cette distinction qu'on peut avoir entre l'inclusion et l'intégration. Je vous prends un exemple. Au sein de l'Université de Nîmes, comme dans les collèges, lycées, et puis très probablement dans toutes les universités, l'aménagement le plus classique, c'est le tiers-temps. Ce qui veut dire que les étudiants et étudiantes, en fait, ont un parcours qui est le fait d'aller voir le médecin, ou la médecin en l'occurrence, du centre de santé étudiant. Ce médecin, sur la base des difficultés de l'étudiant ou étudiante, définit des aménagements. Et l'aménagement le plus classique, c'est le tiers-temps. Ce qui veut dire que, pour des raisons X ou Y, la personne a besoin d'un tiers du temps supplémentaire pour composer. Le problème, c'est qu'on sait qu'il y a énormément de personnes qui auraient besoin de ce tiers-temps et qui, en fait, n'en bénéficient pas. Mais pas parce que le médecin refuse, mais parce qu'ils ne vont pas voir leur médecin. Et donc, finalement, normalement, moi, je perçois, en tout cas, cette notion de tiers-temps comme étant de l'intégration. C'est-à-dire qu'il y a un système, l'examen, c'est une heure. Et ceux qui bénéficient d'un aménagement, ben, en fait, on leur donne 1h20. Une démarche inclusive serait en réalité de faire que des examens d'1h20, d'une durée d'1h20, mais pensée par l'enseignant comme réalisable au bout d'1h. Ce qui voudrait dire qu'en fait, les personnes qui n'ont pas besoin de tiers-temps ben, finissent en 1h. Et puis les personnes qui en ont besoin ont la possibilité d'aller jusqu'à 1h20, sans démarche particulière et sans avoir le besoin, ça, je reprends la notion de preuve qui était évoquée tout à l'heure, de devoir justifier en fait d'une difficulté. Déjà parce que, comme je l'évoquais, des fois ils ne font pas la démarche et puis des fois ils n'en ont tout simplement pas conscience en fait. Hein. Et donc on a toute une vague qui arrive après les premiers partiels en nous disant « mais en fait du coup je n'y arrive pas ». Et en fait, du coup, on les a déjà mis en situation d'échec parce qu'on les a confrontés à un système qui ne correspondait pas à leur particularité. Et en fait, ils s'en sont rendus compte après coup. Sauf qu'à l'université, bah, du coup, vous n'avez que 2 semestres. Et quand vous rentrez en première année à l'université et que du coup, vous êtes mis en difficulté sur le premier, c'est dur, ça nécessite beaucoup de ressources d'arriver à se réajuster sur le second. Et je reprends les propos qui ont été faits dans la salle tout à l'heure. Ça nécessite beaucoup de courage, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement, de motivation. Et en fait, c'est compliqué de mobiliser tout ça quand on est déjà aux prises avec certaines difficultés, avec ses cours, des difficultés financières, etc. Donc, moi, je trouve qu'il y a effectivement cette distinction qui est difficile à faire, des fois, entre cette notion d'intégration, d'intégrer dans un système normatif des personnes avec des particularités, et cette dimension d'inclusion, c'est-à-dire de faire un système qui est pour tous, en fait. Et donc, on pourrait se dire, bah, finalement, si vous le savez, pourquoi vous ne le faites pas ? Et donc la réponse, elle est toute bête. Et du coup, je suis enregistrée, mais je suis presque honteuse de le dire parce que entre l'humain et l'administratif, l'humain devrait primer. Mais c'est tout simplement que si en fait on fait systématiquement un tiers de temps supplémentaire, on n'a pas les amphis suffisants pour faire tous les examens sur la période de cours. Et donc en fait, c'est juste pragmatique. Mais je trouve que c'est une micro-société par rapport à ce qui est présenté dans le film. Il y a cette notion, effectivement, de... Ben, en fait, si vous ne respectez pas votre rendez-vous, ça a des conséquences sur la personne derrière. Et ben là, si on augmente la durée des partiels, ça a des conséquences sur l'occupation des salles. Et après, ben, du coup, on a toujours cet effet rebond de... Ben, augmentons l'étendue horaire. Ben oui, mais sauf qu'en fait, les étudiants et étudiantes qui habitent dans le Gard et dans des endroits qui sont un peu plus isolés, pour un certain nombre d'entre eux, leur car ou leur train, ça s'arrête à 18h le dernier. Donc en fait, quand on leur fait des partiels à 19h, et ben, du coup, ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Et donc il y a toujours cet effet un petit peu, des fois, boule de neige, en fait, où à mener une action, en fait, pour tous, on se rend compte qu'on n'arrive jamais à intégrer le tous. Et du coup, ça fait le lien avec cette notion de diversité, c'est-à-dire que plus, en fait, on a des populations diversifiées, plus ces populations ont des besoins particuliers, et plus, finalement, c'est difficile d'arriver à répondre à l'exhaustivité de l'ensemble de ces besoins. Et peut-être, alors, du coup, je ne sais pas combien de temps, 10 minutes, ben, du coup, je prends 5 minutes supplémentaires pour vous évoquer ce que nous, on essaye de mettre en place de manière... Alors, pas forcément. Alors, il y a des choses qui sont très typiques, hein, donc la question du tiers-temps, des aménagements pour les étudiants et étudiantes à besoins particuliers. Et puis, il y a peut-être, et je trouverais ça peut-être plus intéressant de vous partager ça, des choses qui sont plus atypiques dans les universités, notamment l'université de Nîmes dispose d'un distributeur et donc de produits de première nécessité. Et en fait, les étudiants et étudiantes, ils présentent leur carte étudiant et chaque semaine, ils peuvent aller retirer du savon, du shampoing, des protections hygiéniques, des rasoirs, etc. Et ça, pour le coup, pour moi, c'est une vraie démarche inclusive parce qu'en fait, il n'y a pas certaines cartes étudiants qui peuvent y accéder, c'est tous les étudiants et toutes les étudiantes peuvent y accéder. Et donc c'est vrai que ça, pour moi, là, pour le coup, c'est une vraie démarche inclusive parce qu'on ne prend aucun critère pour donner accès à ce distributeur. Et vous voyez, ça fait un peu un différentiel avec les actions en dehors de l'université, mais à destination des étudiants et étudiantes, à savoir les actions qui sont portées par le CROUS. Donc le CROUS permet aux étudiants de pouvoir avoir un logement, de pouvoir avoir des bourses, sauf que du coup, c'est sur des critères sociaux et notamment sur les revenus des parents. Et sauf qu'en fait, nous avons beaucoup d'étudiants qui sont en difficulté financière, alors même que leurs parents ne le sont pas forcément ou pas suffisamment. Alors, je mets des guillemets sur le suffisamment parce que ce n'est pas très politiquement correct de le dire, mais du coup, par rapport aux critères, c'est une réalité. Mais on a aussi des étudiants et étudiantes qui ont des parents qui peuvent avoir des revenus plus importants, mais qui sont en conflit avec leur système familial et donc, en fait, qui ne bénéficient pas des revenus et d'une aide financière de la part de leurs parents et qui, en fait, ne bénéficient pas non plus des aides parce que leurs parents sont, ont des revenus qui sont trop élevés. Et donc, ça, on en revient à cette démarche de « on sélectionne les personnes qui ont droit à des aménagements ». Et là, du moment où on offre des services pour toutes et tous, là, on est dans une vraie démarche inclusive. Et donc, ça part... Quand ce distributeur a été mis en place, il y avait une inquiétude de se dire « Oui, mais peut-être qu'il y a des étudiants et étudiantes qui vont prendre ces produits de première nécessité alors qu'ils n'en ont pas besoin. » Et en fait, personne ne fait ça. Parce qu'ils ont... Ben, très probablement que déjà, une très grande majorité en ont besoin. Et en plus de ça, ça ne traverse pas à l'esprit aux étudiants et étudiantes qui n'ont pas besoin d'aller à ce distributeur. Et je vous prends un autre exemple, parce que là, par contre, c'est un peu plus répandu dans les universités, mais comme ça, ça m'illustre cet effet boule de neige que je vous évoquais tout à l'heure. À l'université de Nîmes, on a mis en place des protections hygiéniques qui sont distribuées gratuitement. Donc en fait, dans tous les sanitaires des femmes, parce que nos sanitaires sont genrés, vous avez une distributeur de... Donc là, actuellement, je crois qu'il n'y a plus que le distributeur de tampons. À un moment donné, il y avait une réflexion sur des serviettes hygiéniques. À d'autres moments, il y avait une réflexion sur des protections plus réutilisables. Et donc là, c'est pareil. Ah ben non, mais du coup, tous nos distributeurs vont être vides, toutes les étudiantes vont les prendre, et pas forcément celles qui en auront le plus besoin. Et vous voyez, il y avait vraiment cette discussion de savoir, est-ce qu'on limite, en ne donnant accès finalement à ces produits de première nécessité qu'aux étudiantes les plus précaires, ou est-ce qu'on donne accès à tous ? Donc le choix a été fait de donner accès à tous. Très honnêtement, les distributeurs ne sont pas vides au bout de deux jours parce que bah, les étudiantes qui les utilisent sont les étudiantes qui en ont besoin, en fait. Et puis celles qui ont les moyens de se financer leur protection ont leur protection avec elles. Et donc, en fait, personne ne va venir avec son sac prendre 15 tampons dont elles n'ont pas besoin, en fait. Et donc ça, pour nous, c'était une vraie réussite, une vraie démarche inclusive. Mais du coup, revers de la médaille, on s'est rendu compte que, en fait, ça n'était pas tant que ça. Parce que vu que nos toilettes sont genrées et que nous avons quand même au sein de l'université un certain nombre d'étudiants et d'étudiantes transgenres, on s'est retrouvés à avoir des remontées d'étudiants transgenres qui du coup allaient dans les sanitaires hommes, mais avaient toujours leur menstruation et qui en fait finalement étaient exclus de ce dispositif ou sinon étaient contraints de devoir aller dans les sanitaires femmes, prendre leur protection et puis retourner dans les sanitaires hommes pour après du coup utiliser leur protection ou tout simplement aller aux toilettes. Et là on s'est dit, ah ben oui, ben en fait, vous voyez, c'était une illustration de, ben, à un moment donné, on se retrouve dans des contextes où on essaye de faire pour tous, mais il y a toujours un petit moment où on se rend compte que en fait, le tous, il est beaucoup plus diversifié des fois que ce qu'on anticipe. Et donc, c'est un peu par essai-erreur. Donc, une fois que ça a été dit, l'enjeu, ça a été de remettre des distributeurs sur les sanitaires hommes. Mais du coup, vous voyez, en fait, ça veut dire qu'à un moment donné, ça a fait effraction auprès de quelqu'un qui a dû nous solliciter. Il nous a dit, mais en fait, du coup, moi, comment je fais ? Eh bien oui, effectivement. Toi, comment tu fais ? Eh bien, ça, on n'y avait pas pensé. Et moi, je trouve ça horrible, en fait, de mettre les gens dans des situations où c'est eux qui doivent dire à l'institution qu'est-ce qu'il faut faire pour être intégré au mieux dans, en l'occurrence, un système universitaire. Donc ça, c'était pour vous donner deux illustrations de dispositifs. Et puis après, donc ça a été évoqué un petit peu en introduction. Au sein de l'université, on essaye aussi de mener des actions par les étudiants, pour les étudiants. Parce que, comme dans beaucoup de systèmes, du moment où c'est fait par les autres, il y a une forme de réactance de... Non, je me débrouillais seule. Alors que finalement, lorsque la proposition vient d'un pair, donc en l'occurrence d'un étudiant ou une étudiante, souvent c'est reçu d'une autre manière. Et donc, dans ce cadre-là, on a une unité d'enseignement, donc qu'on a intitulée « Promouvoir l'inclusion au sein de l'université ». Et dans cette unité d'enseignement, nous avons chaque année, du coup, 20-25 étudiants et étudiantes de première et de deuxième année, toutes filières confondues, qui doivent conduire des projets à destination des autres étudiants et étudiantes de l'université. Et donc, leur évaluation avait lieu hier pour cette année. Et donc, cette année, ils avaient typiquement conduit donc, un atelier sur la question de la précarité étudiante, un atelier sur les discriminations liées au genre, avec cette question des menstruations et des tabous autour des menstruations. Il y avait un sous-groupe dans cet atelier sur la question de la communauté LGBT. On avait un groupe sur le handicap physique, un groupe sur les handicaps sensoriels, donc notamment la déficience visuelle, et un groupe sur les questions de santé mentale et les tabous relatifs à la santé mentale, et portant plus spécifiquement sur les troubles du comportement alimentaire. Et en fait, on se rend compte que nous, des fois, on met beaucoup d'énergie à porter des actions, et en fait, personne ne vient. Du coup, c'est très frustrant quand on fait ça. Et quand les étudiants et étudiantes font ça, en fait, ça marche beaucoup mieux, mais parce qu'ils font appel à leurs amis, qui font appel à leurs amis et qui font venir du monde, qu'entre eux, ils se disent, bon, ben, du coup, c'est important parce que j'ai une note derrière, donc ça serait sympa que tu viennes, que ceux qui viennent à l'atelier 1, ben, du coup, ils disent, bon, ben, OK, alors je vais aller à l'atelier 2. Et on voit effectivement une dynamique que moi, je trouve extrêmement intéressante parce que ça veut dire que les personnes qui portent les ateliers, du coup, déjà, se sentent valorisées dans une position un peu de « je transmets quelque chose aux autres ». Et les personnes qui bénéficient de l'atelier bénéficient, du coup, d'informations pour arriver à inclure la différence et à conduire et à se sensibiliser aussi à la différence. Et pour clôturer mon propos, alors juste peut-être un peu aparté, mais du coup là je vous ai plus présenté mon rôle en tant que vice-présidente au sein de l'université, mais du coup j'ai aussi une autre casquette qui est le fait d'être enseignante-chercheuse. Et donc moi c'est vrai que ces questions-là de stigmatisation, je les intègre aussi dans mes thématiques de recherche. Et donc j'essaye de faire en sorte aussi que mes travaux de recherche puissent être utiles notamment à la communauté étudiante, mais pas que, mais en tout cas ont pour objectif de pouvoir favoriser l'inclusion. Et donc on a conduit un projet de recherche donc, qui s'appelle Hop LGBT. Bon, alors j'ai juste pris un exemplaire, mais si vous prenez en photo derrière les ressources, vous pouvez tout à fait me ressolliciter derrière. Et en fait, ce projet de recherche visait à intégrer toutes les configurations de personnes LGBT, que l'on soit le parent d'un jeune LGBT, que l'on soit un parent LGBT, ou qu'on soit un jeune enfant ayant des parents LGBT. Et donc là, typiquement, je vous ai pris le livret à destination des jeunes enfants ayant des parents LGBT. Et vous voyez, en fait, je trouve que... Alors, c'est une illustration pour une population minoritaire et stigmatisée, mais qu'on pourrait décliner à plein d'autres. C'est que, du coup, souvent, on peut être empreint de bonne volonté, mais en fait, on ne sait pas comment parler de certaines choses, notamment quand on n'est pas très familier de la thématique. Et donc, là, dans ces livrets, on a mis en scène des situations entre enfants abordant cette question de, finalement, le rejet que les enfants peuvent avoir face à d'autres enfants ayant des configurations familiales différentes. Donc là, en l'occurrence, les populations LGBT, mais en réalité, moi, je sais que pour mes enfants, en tout cas, ça a été aussi une question sur le racisme. C'est compliqué, moi, je trouve, d'expliquer à des jeunes enfants ce qu'est le racisme. Et typiquement, vous voyez, dans ce contexte-là, moi, j'ai ma fille, alors qui a une couleur de peau qui est, on va dire... plus foncé que la mienne, et à qui on a dit, et ça l'a énormément heurté, tu es raciste. Et en fait, parce que je pense que dans le langage de l'enfance, c'est tu es racisé, parce que du coup, tu as une couleur de peau qui n'est pas aussi blanche que les autres, que ta mère. Et du coup, ça a été hyper compliqué d'essayer de lui expliquer la différence du racisme alors du haut de ses 6 ans. Et donc là, l'enjeu, c'était de pouvoir mettre en scène des petites BD pour que justement l'adulte ait un petit support pour arriver à évoquer la question de la diversité dans les configurations familiales. Voilà, donc là, je vous en ai pris un exemple pour vous le montrer. Mais du coup, alors, ces versions sont accessibles en numérique sur le site internet du projet. Et puis, au besoin, si des personnes en souhaitent en version papier, vous pouvez également en récupérer au sein de l'université.
Jésus s'éloigne sur la mer pour trouver un coin de lumière, mais les foules viennent avec leur faim, cherchant la paix sur son chemin. Il les regarde avec amour, soigne les cœurs, guérit les jours. La compassion le fait rester, même si le jour va s'effacer. Il suffit d'un cœur ouvert pour que le ciel fasse le reste. Un peu de pain, simple geste, et la grâce inonde la terre. Quand nos mains sont bien trop vides, Dieu les remplit de l'invisible. Il fait jaillir l'abondance du peu qu'on donne en confiance. Les disciples viennent inquiets, on n'a plus rien, que peut-on faire? Mais Jésus dit, donnez-leur tout ce que vous avez, même sans grandeur. Alors 5 pains et 2 poissons passent de main en main par bénédiction. Et dans ce geste si discret, un miracle est né, tout est complet. Il suffit d'un cœur ouvert pour que le ciel fasse le reste. Un peu de pain, un simple geste, et la grâce inonde la terre. Quand nos mains sont bien trop vides, Dieu les remplit de l'invisible. Il fait jaillir l'abondance du peu qu'on donne en confiance. Même si j'ai peu à donner, je te l'offre sans compter, car tu transformes les miettes en festin pour chaque être. Tu fais tout avec si peu, un simple geste, un cœur en feu. Là où l'homme voit le désert, toi tu graisses un festin sur la terre. Quand je te donne ce que j'ai, tu fais plus que je ne pensais. Dans tes mains tout devient mieux, oui Seigneur. Tu fais tout avec si peu.
Vous êtes sur Radio Alliance Plus, vous écoutez le 103.2. Vous pouvez nous écouter aussi en DAB+, ou bien aller sur notre site radioallianceplus.fr pour écouter nos podcasts. Aujourd'hui, nous parlons de l'Association protestante d'assistance et du colloque qui a eu lieu vendredi dernier, vendredi 5 décembre 2025, et où il était question de la société inclusive. Vous avez pu entendre l'intervention d'Élodie Charbonnier, qui est vice-présidente et chargée de mission égalité, diversité, inclusion à l'Université de Nîmes. Et puis, nous avons entendu un chant de Rudy Pierre. Si vous voulez avoir d'autres précisions au sujet de l'APA, il vous faut aller sur leur site, Association protestante d'assistance. Vous pouvez ainsi avoir beaucoup de renseignements sur toutes les actions, et notamment si vous voulez rejoindre l'équipe de bénévoles, vous pouvez les appeler et avoir ainsi un entretien avec le directeur ou la responsable de l'APA. C'est au 19 rue Bigot à Nîmes, et voici le téléphone 04 66 58 25 27. Et puis sachez que l'APA est ouverte le jeudi, le mardi et le vendredi matin pour tout accueil, d'urgence ou non, et questions. Je vous souhaite maintenant une bonne semaine, chers auditeurs et chères auditrices, et je vous dis à la semaine prochaine.